Orinoco. Billets d'humeur ou chroniques, anecdotes ou histoires, culturelles et musicales. Inclassables. Aux manettes et au micro, Gilles Bègue. Bonjour à toutes et à tous. C'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve pour cet avant-dernier épisode de la saison. Saison que j'espère avoir été suffisamment riche et variée pour justifier votre fidélité. Encore un grand merci aux auditrices et auditeurs attachés à ce rendez-vous mensuel que je vous propose, ainsi qu'à tous ceux qui découvrent ce programme, bien sûr, sans oublier les abonnés au podcast que je sais de plus en plus nombreux en France et à travers le monde à se retrouver sur le site orinoco-podcast.com pour réécouter, commenter, critiquer et parfois partager cette émission. Je pense que ça n'a échappé à personne, mais nous sommes rentrés dans le mois comptant le plus de jours fériés. Juste derrière nous, le lundi 1er mai, offrant à certains un week-end prolongé, vient de s'achever, mais il sera suivi d'ici peu du lundi 8 mai, puis du jeudi 18 mai, et pour conclure par le lundi 29 mai. Et l'ensemble de ces fêtes me donna l'idée de faire une rétrospective, une analyse de l'ensemble des fêtes que nous souhaitons et célébrons en France. Premièrement, tenter de les référencer chronologiquement, les définir et essayer de remonter à leurs origines. Alors commençons par le commencement. Le 1er janvier, premier jour de l'année. Là encore, il n'échappera à personne que ce premier jour de l'année est déjà un jour férié, un jour de fête. Alors en préambule, malgré tout, une petite précision plus que nécessaire. Je n'ai rien, personnellement, contre la fête, bien au contraire. Ni contre les jours fériés ou chômés, c'est-à-dire les jours de congé ou de repos que l'on met à profit pour faire ce que l'on aime et dont on est parfois privé quand on travaille. Bien au contraire. Ce n'est ni ma vaillance au travail, ni mon courage qui me caractérisa tout au long de ma vie. Ceux qui me connaissent peuvent en attester. Par contre, je suis moins, voire pas du tout, disciple de tout embrigadement, visant à soumettre quelque individu que ce soit à se conformer de façon calendaire et rituelle à quelques coutumes, rites et croyances. Ce programme s'adresse à tout, bien sûr, mais en priorité à deux catégories de personnes. Essayez de voir si vous vous y reconnaissez. Les personnalités indépendantes et originales, les non-conformistes, les gros bras, les fortes têtes, les insoumis, les anards, les rebelles, ceux qui ne s'en laissent pas compter et à qui on ne va pas dicter le mode de vie ni la conduite. Toutes celles suffisamment libres et indépendantes pour lesquelles il n'est pas né celui qui leur imposera quoi que ce soit, ainsi qu'à ceux qui, plus simplement, ont envie de savoir à quoi correspondent les fêtes qu'ils célèbrent ou du moins à laquelle ils participent. Alors reprenons avec le premier jour de l'année. Dimanche 1er janvier. Oui, cette année, le 1er janvier tomba un dimanche. Mais précisons quand même que la date du jour de l'an peut varier d'un pays à l'autre, selon si son calendrier est solaire, comme le nôtre, ou lunisolaire, comme le calendrier chinois. Le nouvel an juif tombe quant à lui au mois de septembre ou octobre. Le nouvel an bouddhique est célébré chaque année du 12 au 15 avril. Les musulmans fêtent quant à eux la nouvelle année en été. Le nouvel an islamique ou nouvel an igérien voit sa date changer d'une année sur l'autre, car le calendrier musulman est un calendrier lunaire et non solaire. Je pense que notre nombrilisme aigu méritait cette petite précision. Donc, en ce qui nous concerne, c'est à l'époque de Jules César qu'on a décidé que le 1er janvier serait le jour de l'an. Plus précisément, il fallut attendre une décision de l'empereur lui-même, Jules César, en 46 avant Jésus-Christ, pour que le 1er janvier devienne le premier jour de la nouvelle année. Dans les croyances de la Rome antique, c'était la journée dédiée à Janus, le dieu du renouveau, promettant alors des jours remplis d'opulence et de bienveillance. Et oui, les Romains dédièrent alors ce jour et le mois entier à Janus, le dieu aux deux faces, l'une tournée vers l'avant, l'autre vers l'arrière. On parle alors du calendrier julien, basé sur le cycle solaire, qui instaure une année de 365 jours, comme nous la connaissons, abandonnant ainsi le calendrier de 355 jours, basé sur le cycle de la Lune, le calendrier lunaire, faisant commencer l'année en mars, en hommage au dieu de la guerre, Mars étant le nom d'un des dieux de la triade la plus importante et du coup le nom d'un mois. Chez les peuples qui se fient au calendrier solaire, comme nous, la date du nouvel an n'en demeure pas moins variable en fonction des époques et des pays, mais surtout en fonction des églises. En effet, ayant admis la naissance du Christ le 25 décembre, qu'à partir de 354, on reviendra en fin de programme sur Noël, l'Église décida, au 8e siècle, de faire débuter l'ère chrétienne le jour de la circoncision de Jésus, 8 jours après sa naissance, soit le 1er janvier. C'est plus précisément en 1582 que le pape Grégoire VIII va généraliser le jour de l'an au 1er janvier dans l'Europe catholique et instaurer le calendrier grégorien, pape Grégoire, calendrier grégorien. Cette fête du Nouvel An a traversé les siècles et est aujourd'hui considérée par tous ou presque, surtout comme une soirée incontournable et bien arrosée. Ce jour est essentiellement marqué, à vrai dire, par le repas de la veille au soir, communément appelé le réveillon, le réveillon de la Saint-Sylvestre. Occasion unique, diront certains, pour faire la fête et se mettre minable parfois. Mais on s'en fout, c'est tellement chouette de s'en mettre jusque-là. On le paiera demain, c'est sûr, mais au moins, on en profite. Je ne fais que reprendre ce que j'entends. Quand certains disent « on le paiera demain », ils ont sans doute oublié qu'ils l'ont déjà payé la veille en faisant leur petite provision de bouche qui, par un phénomène de pur hasard, a pris quelques euros en ces derniers temps. Sans oublier pour certains quelques tenues scintillantes et importables en d'autres circonstances. Alors, quels sont les rites ou traditions, appelez ça comme vous le voulez, qui marquent cette fête du Nouvel An? Cela dépend aussi des régions. Cela peut être gober des grains de raisin, sauter d'une chaise ou se baigner dans l'eau glaciale. Puis il y a le gui et le hou, dont on reparlera plus tard, présents au repas du Nouvel An, qui sont un héritage des traditions et croyances anciennes. Pour les druides celtes, le gui et le hou portaient bonheur. Nous avons gardé l'habitude de nous embrasser sous le gui le soir du réveillon de la Saint-Sylvestre, en gage de bonheur sentimental et de mariage dans l'année pour les célibataires. Mais le bonheur n'était pas le seul pouvoir positif du gui pour les Celtes. Il permettait aux femmes d'avoir beaucoup d'enfants. Il protégeait du mauvais sort et garantissait des récoltes abondantes. Certains l'ignoraient peut-être et pensaient qu'il ne s'agissait que d'une décoration. Eh bien non. Un petit tour du monde nous apprend qu'à Madrid et partout en Espagne, les gens gobent 12 grains de raisin aux 12 coups de minuit, une tradition qui apporterait de la chance pour les 12 mois à venir. Chaque 1er janvier, de nombreux Canadiens se jettent dans les eaux glaciales du cours d'eau le plus proche de chez eux. Les Danois, eux, sautent de leur chaise en faisant un vœu. Une autre manière de laisser derrière soi tout ce dont on ne veut plus pour la nouvelle année consiste, en Équateur, à brûler des marionnettes, souvent faites en papier mâché. Au Brésil, pour que les vœux soient exaucés, tu dois sauter 7 fois au-dessus d'une vague, tout en pensant à tes souhaits. En Italie, il est traditionnel de jeter les objets en vrac par les fenêtres pour chasser les mauvais esprits. En France, pour tous les amoureux de cotillons, embrassades et autres bonnes résolutions, c'est le moment unique de trinquer, d'entrechoquer gentiment nos coupettes de champagne, avant de se souhaiter le meilleur, mais surtout la santé. Vu les hécatombes connues ces derniers hivers, tout me laisse à penser que les vœux ne sont pas souvent exaucés. Vous me direz, moi, ne pense pas à tout ça, moi c'est juste pour faire la fête. C'est amusant de voir que vous êtes nombreux, malgré des circonstances diverses, à avoir envie de faire la fête le même jour. Quelle coïncidence! Mais c'est pas grave. Puis qu'à cela ne tienne, dès le lendemain, le 2 janvier, c'est encore la fête. Quelle fête? La Saint-Basile. Vous n'avez pas bon nombre d'amis ou de collègues qui arrivent le matin en vous souhaitant « bonne fête ». Sur les réseaux sociaux, vous n'avez pas un bon nombre de followers qui vous like un gros pouce bleu ou un cœur rouge qui bat en vous souhaitant « bonne fête ». Revenons un peu d'histoire des religions, mais pas de panique, cette histoire-là est simple à comprendre. La tradition de fêter les prénoms est liée au christianisme et remonte aux premiers martyrs chrétiens qui, après leur mort, étaient canonisés par le pape. À chaque canonisation, l'Église attribuait une journée au nouveau saint, martyr ou non. En général, il s'agissait du jour de sa mort, qui est considéré comme celui de la naissance au ciel pour les catholiques. Au fil des siècles, particulièrement à partir du Moyen Âge, le nombre de saints a connu une croissance exponentielle, à tel point qu'il était possible d'avoir un saint par jour du calendrier. L'année entière en est remplie. Célébré surtout en Europe et en Amérique latine, mais pas exclusivement célébré par des catholiques ou des orthodoxes. Ne vous en faites pas, si vous ne vous appelez pas Basile, dès le lendemain, ça sera le tour de Viviane. Faites la queue, votre tour viendra. Et si ce genre de fête n'implique qu'une minorité de personnes chaque jour, rassurez-vous, janvier n'est pas fini, car dès le 6, il y en aura pour tout le monde. Et oui, ce vendredi 6 janvier, c'était l'épiphanie. C'est quoi l'épiphanie? Si je vous dis frangipane, ça vous parle un peu plus? Si je vous parle de la fève, de la couronne qui vous ira si bien si vous tombez dessus, pas sur la couronne mais sur la fève? Mais à part ça, c'est quoi l'épiphanie? L'épiphanie n'est pas qu'une fête de dégustation de la galette des rois. Elle est avant tout une fête religieuse, dont le mot vient du grec « épiphaneia », qui signifie « apparition » ou « manifestation ». En l'occurrence, la manifestation, ici, concerne la naissance de Jésus. La date du 6 janvier fut retenue par le père de l'Église, Épiphane de Salamine, Épiphane, Épiphanie, au 4e siècle, comme date de naissance de Jésus. L'épiphanie est restée jusqu'à la fin de ce siècle, du 4e, comme l'unique fête célébrant la manifestation ou l'apparition du Christ au monde, avant que la fête de la Nativité, Noël, ne soit décalée au 25 décembre, comme nous l'avons rapidement évoqué. À partir du 5e siècle, l'Église d'Occident célébra la naissance de Jésus le 25 décembre, et pour ne pas perdre la date du 6 janvier, elle devint celle de la manifestation aux païens en la personne des mages, des rois mages. À noter que pour plus de commodité, on n'est pas à un jour près. Le Concile Vatican II, 1962-65, décida que l'épiphanie serait célébrée le premier dimanche suivant le 1er janvier. En France, le 6 janvier 2023 n'étant pas férié, l'épiphanie fut célébrée le dimanche suivant. Cependant, ce ne sont pas les mages qui ont apporté la galette. En France, la coutume de la galette existe depuis le 14e siècle, lorsque les domestiques devenaient les maîtres et inversement l'espace d'une journée. Le roi de la fête était alors celui qui trouvait une fève dans un gâteau. Cette fève est un nouveau clin d'œil à la religion. Elle représente en effet l'enfant Jésus que les mages auraient longtemps cherché en suivant l'étoile, tout en sachant que l'usage de la fève remonte probablement aux Romains qui l'utilisaient déjà comme bulletin de vote pour élire le roi du festin lors des fêtes des Saturnales, des rassemblements populaires pour célébrer le solstice d'hiver. La tradition a perduré et veut que, le jour de la fête des rois mages, on partage un gâteau dans lequel est dissimulée une fève. Cette galette ronde, plate et de couleur dorée représente le soleil, le retour de la lumière après de longues nuits d'hiver. Et dernier fait surprenant, la galette des rois est une tradition typiquement française. Si aujourd'hui, la fève sur laquelle vous êtes tombé était une petite voiture en porcelaine, ce n'est pas que le petit Jésus était garagiste, non, c'est tout simplement à cause du business qui tourne autour de la fête. Je m'inquiète un peu en voyant le temps défiler alors qu'on n'en est qu'au 6 janvier. Alors, accélérons un peu et je vais essayer d'être un peu moins volubile sur la trentaine de dates dont j'avais envie de vous parler. Alors, quittons janvier et par la même occasion, Eric Satie, pour rejoindre février et Debussy. Quant à ceux qui pourraient penser que ce programme vise les religions ou l'Église, ils se trompent. Ce programme a deux objectifs, expliquer l'origine de nos fêtes dans ce pays si laïque, sikh, ça rime, et surtout montrer à ceux qui n'aiment pas se couler dans le moule comment le conformisme influence la vie de tous, même des plus affranchis. Un exemple me revient en tête, et vous allez voir où je veux en venir. La première fois où je suis allé au Venezuela, en 89, j'ai été surpris par les tatouages que portaient certains jeunes sur la plage. Alors je les ai abordés, doucement, pour savoir s'ils appartenaient à des mouvements néo-nazis ou des factions d'extrême droite, bien qu'ils me paraissaient malgré tout très très jeunes. Surpris par mes interrogations, ils me demandèrent pourquoi je leur posais ce genre de questions. Leur répondant que c'était à cause de la croix gammée qu'ils s'étaient fait tatouer, ils me demandaient « et quel rapport ?» Aucun de ces gamins ne connaissait la signification de cet emblème. Comme quoi, on pourrait parfois s'abstenir de dire ou de faire certaines choses si on en connaissait la signification exacte. Mais revenons à nos fêtes et à leurs origines et significations. Restons encore un peu dans la bouffe, car le 2 février, c'était la Chandeleur. Après les galettes, les crêpes. Là encore, on se trouve en présence d'une fête païenne devenue ensuite une fête religieuse chrétienne. À l'époque des Romains, il s'agissait d'une fête en l'honneur du dieu Pan. Toute la nuit, les croyants parcouraient les rues de Rome en agitant des flambeaux. Puis l'Église s'est appropriée cette célébration païenne. En 472, le pape en a fait une fête religieuse qui deviendra la célébration de la présentation de Jésus au temple. On y revient. On organise alors des processions aux chandelles le jour de la Chandeleur. Mais pourquoi des crêpes à la Chandeleur? Car cette fête est également accompagnée de superstitions et d'une autre tradition se rapportant à un mythe lointain selon lequel, si on ne faisait pas de crêpes le jour de la Chandeleur, le blé serait de mauvaise qualité pour toute l'année. Il faut ajouter à cela la coutume de la pièce d'or. En faisant sauter la première crêpe avec la main droite, en tenant dans la main gauche une pièce d'or. Alors ça doit plus trop se pratiquer, on n'a plus trop de pièces d'or à la maison, mais je me souviens, moi enfant, mes parents avaient une pièce d'or, un Napoléon de 10 francs, et mon père tenait à ce que ma mère fasse sauter la première crêpe avec ce Napoléon dans l'autre main. Le but était d'avoir de l'argent toute l'année. Je trouvais ça déjà très étrange et surtout peu efficace. Aujourd'hui, les processions aux chandelles et autres rites n'existent plus, mais on a conservé la tradition des crêpes. Alors certains peuvent se dire quelle chance, hein, sans la Chandeleur on ne mangerait pas de crêpes. D'autres peuvent se dire pourquoi ne pas manger des crêpes quand on en a envie, et surtout le jour où l'on a dans le placard de la farine, des œufs, du lait, du sucre et un peu de sel. En effet, depuis toujours, la préparation des crêpes fait l'objet de rituels superstitieux bien établis. En février, il y a eu le 14, la Saint-Valentin. Dîner aux chandelles, coupe de champagne, massage. Avec la phrase du lendemain, « Qu'est-ce que t'as fait, toi, hier, pour la Saint-Valentin ? » ?»« Oh, j'ai sorti le grand jeu. Un bijou, un parfum ? » ?»« Non ! » J'ai sorti le grand jeu, je te dis, je me suis fait livrer un repas gastronomique. Elle n'a pas eu la cuisine à faire. Oh, les amoureux, les amoureuses peuvent dire merci Valentin. Ou encore au pape qui décida de lutter contre la fête païenne des Lupercales en la remplaçant date par date par une fête chrétienne avec le martyr Valentin qui devint le saint patron des fiancés. Puis toujours en février, le fameux Mardi Gras, mardi 21 février de cette année. Dans l'Antiquité romaine, cette journée célébrait la fin de l'hiver et l'arrivée du printemps, puisque mars marquait le début de l'année, et cette période était l'occasion de fêtes débridées durant lesquelles on se déguisait et on mangeait plus que de raison. Mais dans la tradition chrétienne, le Mardi Gras marque l'entrée dans le carême, cette période de 40 jours, durant laquelle les chrétiens mangent maigre. Cette journée était pour les chrétiens l'occasion de vider leurs réserves et de manger tout ce dont ils seraient privés pendant plusieurs semaines. Mais que viennent faire le carnaval et les déguisements dans cette histoire? Ce qu'il faut savoir, c'est que le mot carnaval vient du latin carne levare, qui signifie enlever la viande, et donc entrer dans le carême. Le Mardi Gras est le point d'orgue de ces quelques jours durant lesquels tout est permis, on se déguise, on dissimule son visage derrière un masque et on s'affranchit de contraintes sociales et de la bienséance. Et ce serait dommage de ne pas déguiser nos chers bambins ce jour-là. Alors je vais un peu accélérer pour arriver en mars. Et la fête des grands-mères, là vous allez tomber sur les fesses, le dimanche 5 mars 2023, quelle belle fête! Alors contrairement à la fête des mères, dont on parlera plus tard, la fête des grands-mères n'a rien d'historique ou de religieux. Vous allez voir, elle a été créée, pour des raisons commerciales, par les cafés Grand-Mère, une marque de café, en 1987, à l'occasion des 20 ans de la marque, dans le but de booster les ventes. Et par la même occasion, on va juste faire un petit saut en avant pour parler de la fête des pères, qui a une grande similitude avec la fête des grands-mères, bien qu'ayant des origines plus anciennes, légèrement plus anciennes. La fête des pères a été relancée dans les années 50 par la société bretonne Flaminaire, à la recherche d'une idée pour augmenter ses ventes de briquets à gaz. Fête des pères, offrez-lui un Flaminaire, le briquet qui tient toutes ses promesses, pouvait-on lire sur les publicités Flaminaire de l'époque. Un coup de maître qui va pérenniser cette fête dans l'Hexagone, à tel point qu'en 1952, un décret officialisera la fête des pères pour de bon. Quelle chance avons-nous que des boîtes pour se faire un peu de fric nous fixent une date pour honorer nos parents et grands-parents. Sans ça, ils pourraient se brosser pour avoir un cadeau. Puis on arrive en avril avec le lundi 10 avril, le lundi de Pâques. Jour férié, normal. Indispensable, dirais-je. Comment feraient les gosses s'ils allaient à l'école ce jour-là pour arpenter les jardins en quête d'œufs ou de lapins en chocolat? Or, pour une fois, soyons honnêtes, un jour férié qui ne nécessite pas d'explication, du moins pour ceux qui se disent chrétiens, puisqu'il se déroule sur la semaine qui suit le dimanche de la résurrection du Christ. Enfin, un jour férié qui affiche clairement sa connotation religieuse et ses origines religieuses. Et précisons quand même que 3 jours avant le lundi de Pâques, le vendredi saint, est férié dans 3 départements de l'est de la France, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin et la Moselle. Mais quel rapport entre la résurrection du Christ et les œufs de Pâques? Une petite pincée de tradition païenne ne fait jamais de mal. Les Perses, les Romains et les Égyptiens célébraient le retour du printemps, saison de l'éclosion de la nature, en offrant des œufs peints et décorés. N'ayant pas honte du compromis, et depuis le Moyen-Âge en particulier, comme la tradition chrétienne interdit de faire sonner les cloches des églises entre le jeudi saint et le dimanche de Pâques, en signe de deuil, on racontait aux enfants que les cloches étaient parties se faire bénir à Rome par le pape. À leur retour, le dimanche matin, les cloches carillonnaient et déposaient sur leur passage les fameux œufs dans les jardins. Et comme pour le café grand-mère et les briquets pour la fête des pères, les chocolatiers ont mis leur museau dans le gâteau et dans le business qui s'offrait à eux. Alors un petit message réconfortant, un peu provoque, à tous ceux qui ne voient aucun inconvénient et que du plaisir à célébrer des fêtes ou participer à des fêtes religieuses, chrétiennes ou païennes, païens étant simplement croyant à un autre Dieu qu'au vôtre. Eh bien sachez que je vous comprends et rassurez-vous. Avec la montée de l'islam, vous ferez peut-être demain Layla al-Qaïd, l'une des nuits de la fin du ramadan considérée comme bénie chez les musulmans. C'est au cours de cette nuit que le Coran fut révélé à Mohammed par l'ange Gabriel. Puis l'Aïd al-Adha, connu aussi sous le nom de Aïd el-Kébir, qui aura lieu cette année le 29 juin, fête commémorant la force et la foi d'Ibrahim à son Dieu, symbolisé par l'épisode où il accepte de sacrifier son fils sur l'ordre de Dieu. Alors je ne vais pas toutes vous les faire, mais il y en a une bonne dizaine. Alors pour les amoureux de fête, que la fête continue et vive la fête. Un bon nombre de musulmans fêtent bien Noël, pourquoi ne pas fêter des fêtes musulmanes? Puis on arrive en mai, avec ce lundi 1er mai, la fête du travail. Enfin, une fête ne tirant pas ses origines de quelque religion, rite et croyance que ce soit. Et on en profitera pour quitter Debussy et peut-être découvrir pour certains Luc Faulkner, un compositeur et pianiste néoclassique basé à Londres, interprète des plus grands Chopin, Rachmaninoff et Debussy, entre autres. Les compositions mélangent des formes classiques influencées par le minimalisme et les musiques de films, nous accompagneront pour découvrir les fêtes du mois de mai. Composition que j'avais envie de partager avec vous. Alors revenons à ce 1er mai. Quelles en sont les origines? Depuis quand cette date est-elle célébrée? Depuis quand est-elle devenue un jour férié? Il faut remonter à 1886 aux États-Unis pour voir plus de 200 000 travailleurs manifester pacifiquement à travers tout le pays pour obtenir la journée de travail de 8 heures. Revendication réclamée déjà depuis plus de 2 ans. Mais les résultats furent mitigés car tous les travailleurs n'y auront pas droit, ce qui déclenchera des grèves et manifestations de grande ampleur où l'on pourra dénombrer plusieurs morts. À Milwaukee, la police tira sur le cortège, provoquant plusieurs morts. Le 4 mai suivant, à Chicago, en protestation à ces violences, une manifestation allait de nouveau être organisée et être également violemment réprimée. Cette fois-ci, c'est une bombe qui explosa, tuant 11 ouvriers et blessant des centaines d'autres manifestants. Un drame qui allait stigmatiser le monde du travail pour de longues années. En 1897, avant d'être pendu, le leader du mouvement de Chicago, August Spee, ouvrier anarchiste, s'écria « Un jour viendra où notre silence sera plus puissant que les voix que vous étranglez aujourd'hui. » L'idée d'une revendication annuelle à cette même date gagnera l'Europe. Pour le centenaire de la Révolution française de 1789, donc en 1889, lors de la deuxième internationale socialiste à Paris et sous l'impulsion de Jules Guesde, il est décidé de faire du 1er mai une journée de manifestation en hommage aux victimes américaines, de faire du 1er mai une journée de lutte pour la défense des droits des travailleurs. Les ouvriers français défilèrent donc à leur tour le 1er mai 1890 pour demander la journée de 8 heures, eux aussi, avec un triangle rouge à la boutonnière, symbolisant le partage équitable du temps, un tiers travail, un tiers loisir, un tiers sommeil. Comme aux États-Unis, ces premières manifestations allaient dégénérer place de la Concorde à Paris. On ne parlait pourtant pas de Black Bloc à l'époque. Puis les débuts furent plus chaotiques, car dès l'année suivante, en 1891, la manifestation du 1er mai tourna au drame, avec la fusillade de fourmis dans le nord. La troupe tire sur les grévistes pacifiques. 9 morts, dont 8 manifestants de moins de 21 ans, parmi lesquels une jeune ouvrière qui restera comme un symbole, Maria Blondeau. Pour tous ceux qui montent au rideau en commentant les manifs d'aujourd'hui, en soulignant la violence nouvelle, il n'est pas inintéressant de savoir comment c'était avant. Mais ce ne sera que peu de temps avant le 1er mai 1919 que la loi légalisera la réduction du temps de travail à 8 heures par jour. Sous l'occupation, bien sûr, le régime de Vichy tentera de s'approprier le 1er mai. Puis il fallut attendre le 26 avril 1946 pour que le gouvernement reconnaisse officiellement le caractère chômé du 1er mai. Il n'est dès lors plus un jour de grève et tourne aussi la page au régime de Vichy en le rendant définitivement aux travailleurs. En 1948, il devient férié et chômé. Puis, dans la foulée du 1er mai, le lundi 8 mai, inscrit aussi au Code du travail. Jour férié, faisant référence à l'acte de capitulation signé à Reims le 7 mai 1945 et fixant la capitulation sans condition de l'Allemagne et la cessation des hostilités au 8 mai 45, 23h01. En deux mots, la victoire des forces alliées sur l'Allemagne nazie et la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe. Si les Français ne travailleront pas ce 8 mai, il n'en a pas toujours été ainsi. En 1946, la commémoration de la victoire, à cette date du 8 mai, est instaurée par une loi, mais à condition que ce jour-là soit un dimanche. Autrement, la libération sera célébrée le premier dimanche qui suivra le 8 mai. Église et gouvernement, même combat quand il s'agit de tirer profit d'une situation. Quelques années plus tard, en 1945, le 8 mai est déclaré jour férié à la demande des anciens déportés et résistants. Mais les parlementaires de la Ve République reviennent sur cette décision en 1959 et choisissent le deuxième dimanche de mai. En 1968, on instaure à nouveau le 8 mai comme date de commémoration. Mais ce jour ne devient pas un jour chômé et reste travaillé. 7 ans plus tard, en 1975, le président Valéry Giscard d'Estaing décide de supprimer la commémoration officielle de la victoire sur l'Allemagne nazie et de la remplacer par une journée de l'Europe, afin de marquer la réconciliation franco-allemande. Ultime changement, 1981. Le 8 mai est finalement déclaré jour férié en mémoire de la fin de la Seconde Guerre mondiale et de ses combattants. Depuis, le rituel veut que chaque 8 mai, le président de la République passe en revue les troupes, place de l'Étoile, ravive la flamme du tombeau du soldat inconnu et dépose une gerbe. Mais selon le dicton « En mai, fais ce qu'il te plaît », il ne faudra attendre que 10 jours pour retrouver un autre jour férié, lui aussi inscrit dans le Code du travail. Le jeudi est 18 mai, le jeudi de l'Ascension. Bien qu'il soit très clair en France et souvent rabâché qu'il y a une vraie séparation des pouvoirs de l'Église et de l'État, le gouvernement a inscrit l'élévation du Christ comme jour férié inscrit au Code du travail. Car selon l'Église, 40 jours après sa résurrection, le dimanche de Pâques, et 10 jours avant la Pentecôte, Jésus entre dans le ciel avec son corps. Et depuis le concordat signé entre Bonaparte et le pape Pie VII en 1801, le lundi de Pentecôte, lundi 29 mai 1923, fait également partie des 4 fêtes chrétiennes légalement chômées en France. Changeons de mois et par la même occasion de compositeur pour nous accompagner. Dans l'esprit découvrons l'origine de nos fêtes, je vais tenter de rester dans l'esprit découverte en illustrant la suite de ce programme avec les musiques d'un compositeur vénitien, Baldassare Galuppi. Quant à lui, le mois de juin est plus tranquille en ce qui concerne les jours fériés, mais pas en rapport avec les fêtes. Car dès le vendredi 2 juin 2023, on aura la fête des voisins. C'est en 1999 que la première fête des voisins a lieu à l'initiative d'Athanase Périfan, alors conseiller municipal parisien, suite à un événement malheureux. La découverte en 1997, 2 ans auparavant, d'une femme âgée, morte dans son appartement depuis 4 mois. Car derrière l'épaisseur de nos murs, il y a la solitude. Et l'idée fut qu'une fois dans l'année au moins, on crée un lien. La première fête des voisins eut lieu rue Vernier dans le 17e arrondissement de Paris. Fête, il faut l'avouer, sans grand succès. Aujourd'hui, la fête des voisins a réellement pris son envol, même s'il subsiste encore quelques sceptiques et récalcitrants. Contrairement à d'autres fêtes, la date n'est pas fixe. Cette date est choisie par l'association Immeuble en Fête depuis 2010. Et a lieu en général le dernier vendredi de mai ou le 1er de juin. Ce sera le 1er de juin pour cette année. Les objectifs déclarés sont de renforcer les liens de proximité, créer une solidarité entre voisins, développer un sentiment d'appartenance à un même quartier, se mobiliser contre l'exclusion et l'isolement. Souvent organisé sur la formule d'un give and take, hein, chacun est invité à apporter un plat que tous se partageront. Il faut reconnaître que la France a fait des émules car aujourd'hui, nombreux pays célèbrent aussi la fête des voisins. C'est souvent l'occasion de faire quelques photos de la soirée, ce qui permet de retrouver nos voisins dans la galerie de nos smartphones alors qu'on ne les reverra sans doute plus de l'année. Puis arrive une fête plus ancienne que Noël, car 2 jours après la fête des voisins, on aura la fête des mères, le dimanche 4 juin. On peut lire à ce sujet: on imagine leur impatience à l'idée de recevoir des fleurs par milliers, du parfum, des bijoux ou encore des dessins, sans oublier les éternels colliers de nouilles et surtout beaucoup d'amour. Là encore, quel drame que de devoir attendre un jour inscrit définitivement dans la loi du 24 mai 1950 pour qu'une maman puisse espérer recevoir des fleurs ou de l'amour au choix. En réalité, la fête des mères ne date pas d'hier, bien au contraire. Cette célébration aurait vu le jour à l'époque de la Grèce antique. Chaque printemps, les Grecs avaient pris pour habitude de vénérer la déesse Rhéa, ou Cybèle, la mère des dieux. Les Romains, au 5e siècle avant Jésus-Christ, rendaient hommage aux femmes et aux mères en se rassemblant au temple de Junon Lucina. Cette fête portait le nom des Matralia et célébrait Mater Matuna, la déesse de l'aube et de l'enfantement. Mais ce n'est que bien plus tard, en 1907, et aux États-Unis, que la fête des mères est devenue une véritable tradition. Comment ? Grâce à Anna Marie Jarvis, qui décida de faire campagne pour lancer une journée spéciale dédiée aux mères, afin de rendre hommage à sa maman, décédée 2 ans auparavant. Très vite, l'engouement se fait sentir autour de ce Mother Day. Aussi, en 1914, le président Wilson désigne cette fête comme jour férié national. Et en France alors ? Eh bien, si l'idée d'organiser une journée dédiée aux mères est évoquée par Napoléon en 1806, la fête des mères françaises voit véritablement le jour sous l'impulsion de l'Union fraternelle des pères de famille méritants en 1906 en Isère. C'est ici, le 10 juin, que le village d'Artas organise la première cérémonie en l'honneur des mères de famille nombreuses. Plus tard, le 16 juin 1918, le colonel de la Croix-Laval va instaurer la première journée des mères officielle à Lyon. Une journée rendant hommage aux mères et épouses ayant perdu leur fils ou mari durant la Première Guerre mondiale. C'est le début de la tradition. La journée des mères, M-E-R-E-S, est officialisée le 20 avril 1926. Tandis que le maréchal Pétain institue officiellement la Journée nationale des mères le 25 mai 1941 dans le cadre de sa politique nataliste. La fête des mères s'inscrit définitivement dans la loi du 24 mai 1950 qui précise que la République française rend officiellement hommage chaque année aux mères françaises. Un texte de loi instituant la fête des mères. Elle est alors définitivement fixée au dernier dimanche de mai, mais si cette date coïncide avec celle de la Pentecôte, la fête des mères a lieu le premier dimanche de juin, ce qui sera le cas cette année. Et si de nombreux pays célèbrent cette fête des mères, les dates retenues diffèrent d'un pays à l'autre, allant de février en Norvège à décembre pour l'Indonésie. Toujours en juin, la fête des pères, le dimanche 18 juin. On en a déjà parlé précédemment en évoquant la fête des grands-mères, car toutes les deux, le fruit d'une propagande commerciale, l'une pour le café, l'autre pour des briquets. Puis, le 21 juin, la fête de la musique, qui tombera un mercredi pour 2023, connu aussi sous le nom de Journée mondiale de la musique. Alors pour nous Français, nous l'associons ou à rien si nous sommes très jeunes, ou aux années 80, plus précisément 1982 et Jack Lang, alors ministre de la Culture. Mais pour connaître la véritable origine de cette fête, il faut remonter à 1976, pour que Joel Cohen, musicien américain, travaillant alors pour la chaîne musicale France Musique, décide de célébrer le solstice d'hiver et le solstice d'été en proposant une programmation musicale spéciale diffusée toute la nuit et qu'il baptisera les Saturnales de la musique. La première édition a eu lieu le 21 juin 1976. Quelques années plus tard, le 10 juin 1981, la fête de la musique et de la jeunesse est organisée pour célébrer l'élection de François Mitterrand. Un concert gratuit Place de la République à Paris où l'on put entendre Jacques Higelin, le groupe Téléphone. Tous, ce soir-là, vont rêver d'un autre monde. Et les plus de 100 000 personnes qui assistent à la fête de la musique et de la jeunesse sont ravies. C'est une véritable réussite. Puis, sur le conseil de Maurice Fleuret, ancien directeur de la musique et de la danse du ministère, Jack Lang organise en 82 la première fête de la musique telle qu'on la connaît, c'est-à-dire inviter tous les Français à faire de la musique. D'ailleurs, elle s'appelait Fête de la musique, F-A-I-T-E-S, afin d'inciter les amateurs à se produire en France. Précisons quand même que les solstices sont fêtés depuis la nuit des temps et de toutes sortes de façons. Fêtes païennes reprises par les religions ou par le peuple tout simplement. Le solstice d'été n'y échappe pas. Souvenez-vous, avant 1982, certains fêtaient les feux de la Saint-Jean le 24 juin, autour d'un grand feu organisé par la municipalité ou des associations. Certains venaient pour leur foi, mais nombreux étaient ceux qui venaient pour la buvette, la musique ou le bal. Reprise dans plus de 120 pays à travers le monde, la fête de la musique est aujourd'hui célébrée dans plus de 350 villes. Là encore, ce qui me dérange dans cette fête de la musique, comme dans tout ce qui est imposé, c'est que ce 21 juin ressemble plutôt à une joyeuse cacophonie à chaque coin de rue qu'à une réelle ouverture vers un monde musical. Et par obéissance ou bienséance ou conformisme, appelez ça comme vous le désirez, tous se disent réjouis. Ce groupe au coin de votre rue, qui reçoit ce soir-là des applaudissements nourris, toutes les 5 minutes, recevra dès le lendemain l'arrivée des flics alertés par ceux qui les applaudissaient la veille. Puis pour confirmer que cette soirée tombe dans l'évasion, la découverte et le récréatif, il faudrait que la magie, la féerie et l'envoûtement de la musique se calculent en décibels. Suis-je un grincheux, sans doute, mais surtout amoureux de musique. Quant à ceux qui pourraient en douter, il leur suffira de se rendre sur le site orinoco-podcast.com pour s'apercevoir que depuis près de 20 ans, ce programme existe et qu'il n'y eut pas un style musical qui ne fût mis à l'honneur. Puis, juin se referme avec la fête de la Saint-Jean, le samedi 24 juin. Et comme autre compositeur pour nous accompagner pendant quelques mois, Ryuichi Sakamoto, japonais, né à Tokyo en 52, maître des synthés et des samplers, mais aussi pianiste et surtout compositeur. Et l'heure qui s'écoule trop vite m'affole un peu, ce qui va m'obliger d'accélérer. Donc en juillet, on ne manquera pour rien au monde le bal du 14 juillet. Et oui, la fête nationale sera un vendredi cette année. Et là encore, bien que très rare, après le 1er mai, une fête dénuée de toute origine religieuse. La fête nationale se construit sur le souvenir et la signification de deux événements révolutionnaires. Pour faire court, on retiendra essentiellement le 14 juillet 1789 et la prise de la Bastille, comme symbole de l'émancipation et de la conquête de la liberté du peuple français. Mais au 14 juillet 1789 succédera le 14 juillet 1790, fête de la Fédération. Cette fête fut célébrée sur le Champ de Mars de Paris dans un climat d'union nationale. Par conséquent, cette référence-là atténue le caractère violent de la prise de la Bastille au profit d'un événement qui célèbre la nation fédérée, unie en une même fête, associant l'ensemble des parties pour un projet commun. Et c'est officiellement cet événement qui est, et fut, célébré dès le 14 juillet 1880. La chute de la Bastille, c'est la chute de toutes les Bastilles, s'exclama Victor Hugo à l'Assemblée à la veille du vote de la loi. Le 14 juillet marque la fin de tous les esclavages, c'est la fête de toutes les nations. Puis en août, le 15 août, ou l'Assomption, qui tombera cette année un mardi. C'est Louis XIII qui popularisera la fête du 15 août en France en 1638. Sans héritier, après 20 ans de mariage, il demanda à ses sujets de faire dans chaque paroisse, le 15 août, une procession en l'honneur de la Vierge Marie afin d'avoir un fils. Louis XIV naîtra l'année suivante. Pour les catholiques, c'est la célébration à la fois de la mort, de la résurrection, de l'entrée au paradis et du couronnement de la Vierge Marie. Pour les moins initiés, attention à ne pas confondre l'Assomption et l'Ascension, qui célèbrent, elles, la montée au ciel de Jésus-Christ. Ce n'est que le 1er novembre 1950 que le pape Pie XII proclama la définition dogmatique de cette célébration, officialisant ainsi la montée au ciel de la Vierge. Septembre, rien au programme des festivités, car il faut attendre le premier dimanche d'octobre pour rencontrer la fête des grands-pères, fête assez récente puisque remontant simplement à 2008. Eh oui, on avait oublié les grands-pères. Puis arrive Halloween, le 31 octobre. L'origine de la fête d'Halloween est un bel exemple du syncrétisme en religion. La fête d'Halloween se célèbre dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre. Il s'agit d'une fête traditionnelle américaine d'origine irlandaise qui s'est développée aux USA à la fin du 19e siècle. Halloween se caractérise traditionnellement par des enfants déguisés de costumes effrayants, fantômes, sorcières, squelettes, qui passent de porte en porte pour demander des bonbons. Le symbole d'Halloween, c'est une citrouille évidée dans laquelle on a creusé un visage et placé une bougie au centre. Fête, on doit le reconnaître, qui prend une ampleur assez phénoménale ces dernières années. Puis, après Halloween, et toujours avec la mort aux trousses, sera la Toussaint, ce mercredi 1er novembre. L'Église catholique de France indique sur son site internet que chaque 1er novembre, l'Église honore ainsi la foule innombrable de ceux et celles qui ont été de vivants et lumineux témoins du Christ. Si un certain nombre d'entre eux ont été officiellement reconnus et canonisés par un pape, l'Église sait que d'autres ont été fidèles à l'Évangile. C'est bien pourquoi, en ce jour de la Toussaint, les chrétiens célèbrent tous les saints connus ou inconnus. Cette fête date du IVe siècle et était célébrée non pas le 1er novembre, mais le dimanche qui suivait la Pentecôte. Puis, la Toussaint a ensuite changé de date lorsqu'en 610, le pape Boniface IV a décidé qu'elle aurait lieu tous les 13 mai. Et c'est en 835 que le pape Grégoire IV prend la décision de la déplacer au 1er novembre pour concurrencer les fêtes païennes comme Samhain, première des quatre grandes fêtes religieuses de l'année gaélique, liées à la magie et à la sorcellerie, célébrées à cette date par les peuples celtes. Puis arrive l'armistice du 11 novembre. Ce sera un samedi cette année. Tout comme le 8 mai marquait la fin de la Seconde Guerre mondiale, le 11 novembre célèbre l'armistice de 1918, date marquant la fin de la Première Guerre mondiale. Le 8 novembre 1918, une délégation allemande est reçue en forêt de Compiègne, près de Rotonde, dans le wagon-bureau du maréchal Foch, et les conditions de l'armistice sont présentées. Le 11 novembre à 5h45 du matin, l'armistice est signé dans les conditions demandées. Les hostilités sont suspendues le même jour à 11h. Ce ne sera malgré tout qu'au moment de la signature des traités de paix de Versailles, le 28 juin 1919, que la sortie de la guerre sera définitivement actée. Puis le 8 novembre 1920, une loi est votée pour qu'un hommage soit rendu au reste d'un soldat non identifié, mort au champ d'honneur. Les derniers poilus s'étant éteints, la loi du 28 février 2012 étendra l'hommage à tous les morts pour la France des conflits anciens ou actuels. Puis, moins solennelle, la Sainte-Catherine aura lieu le samedi 25 novembre 2023. À cette occasion, et comme depuis le Moyen-Âge, les jeunes femmes à marier, donc célibataires, de plus de 25 ans, seront les Catherinettes. Alors comment fête-t-on la Sainte-Catherine ? Bien, la tradition veut que les jeunes femmes célibataires de plus de 25 ans doivent porter un chapeau extravagant confectionné par leurs soins ou par la famille, accoutrement devant comporter du vert, la couleur de l'espoir, et du jaune, qui est la couleur de la sagesse. Aujourd'hui encore, mais que dans certains domaines professionnels tels que la haute couture ou la mode en général, les jeunes femmes susceptibles de porter la coiffe reçoivent des cadeaux de leur employeur. Mais dans l'ensemble, aujourd'hui, il ne s'agit plus d'une grande fête populaire où le besoin de se marier n'est plus vraiment à l'ordre du jour. D'ailleurs, beaucoup aujourd'hui se manifestent pour clamer leur indignation face à cette fête soi-disant sexiste. Puis pour conclure, on survolera trop rapidement malheureusement le mois de décembre et son fameux Noël, la fête par excellence, la crèche et ses santons, le sapin et ses boules qui vont bien, les guirlandes qui clignotent autour de la porte pour ne pas la louper, et parfois un Père Noël qui grimpe sur la façade pour rejoindre la fenêtre des gosses. Cette année, il faudra attendre le 25 décembre, comme chaque année, pour s'entendre dire, les jours précédents, « Oh, ça me fatigue, ces histoires de cadeaux !» avant de les voir tous courir vers les grandes surfaces, dégueulant de jouets et de truffes en chocolat. Ah, quelle belle fête! Alors, avec le temps qu'il nous reste, examinons l'origine de cette fête ainsi que celle de ses deux compères inséparables, le Père Noël et le sapin. Et s'il nous reste 2 minutes, on poussera le bouchon jusqu'à remonter aux origines de la fameuse bûche de Noël glacée ou roulée. Pour cette dernière partie, j'avais envie de vous faire entendre et peut-être découvrir Sofiane Pamart, dont les mélodies accrocheuses au piano séduisent autant les rappeurs que les amateurs de musique classique ou de pop. Et je dois vous l'avouer, l'ayant que très récemment découvert, je peux vous promettre qu'il ne nous accompagnera pas que pour la fin de ce programme. Alors Noël. Noël, cette année, tombera un lundi et nombreux commémoreront la naissance de Jésus. Pourtant, il n'en a pas toujours été ainsi. Il a même fallu attendre plusieurs siècles pour qu'on s'intéresse à la date de naissance du Christ. Le choix de la date est en effet attribué à Constantin, empereur romain qui se convertit au christianisme au 4e siècle de notre ère et qui souhaita que tout son peuple en fasse autant. Le 25 décembre apparut alors comme une date stratégique, car les Romains étaient déjà familiers des fêtes dédiées au soleil à cette même date. Ils célébraient le culte de Mithra, une divinité venue de Perse, et incarnant la lumière. Il est en effet plus facile d'en convertir certains en ajoutant de nouvelles symboliques à des bases préexistantes. Aujourd'hui, avec le recul de la religion chrétienne, en Europe notamment, Noël a quelque peu perdu de ses enjeux religieux pour être autant une fête familiale, mais c'est loin d'être le cas pour tout le monde. Et les marques liant Noël à la chrétienté sont encore bien nombreuses. La notion d'abondance, de nourriture, de cadeaux, qui va encore de pair avec les fêtes de Noël, est la réminiscence des fêtes païennes où l'on multipliait les fêtes en cette période pour conjurer la rigueur de l'hiver. Et que vient faire le Père Noël dans cette histoire ? Eh bien, le Père Noël, lui, serait né il y a environ 1700 ans. Il s'appelait alors Nicolas de Myre, un riche évêque turc qui avait l'habitude pendant la nuit d'aller distribuer des cadeaux et de la nourriture aux plus pauvres. Quand il a été canonisé par l'Église, à une époque où cette dernière cherchait à remplacer les personnages des fêtes païennes par des saints, la Saint-Nicolas le 6 décembre est devenue une fête religieuse populaire dans plusieurs pays du monde. Malgré la réforme protestante du XVIe siècle qui supprima cette fête dans de nombreux pays d'Europe, les Hollandais transformèrent Saint-Nicolas en un personnage semi-laïque, Sinterklaas, et gardèrent sa distribution de jouets. Le nom de Santa Claus, Père Noël, est en fait une déformation du terme néerlandais Sinterklaas, Saint-Nicolas. Et le sapin, d'où débarque-t-il? Assez difficile d'en déterminer les origines exactes, nombreux en revendiquent la paternité, la Lettonie et l'Estonie se revendiquent toutes deux comme le lieu de naissance du premier sapin de Noël, les pays d'Europe du Nord aussi. Le sapin de Noël, tel que nous le connaissons, serait plutôt apparu au XVIe siècle en Alsace. À vrai dire, les vraies origines de ce rituel relatif au sapin de Noël pourraient être perdues à jamais. Puis pour conclure, deux mots sur la traditionnelle bûche de Noël, dont l'origine est aussi liée au solstice d'hiver. Pour la nuit la plus longue de l'année, on brûlait une énorme bûche, mais pas n'importe laquelle. Elle devait avoir une notion de sacré. Le jour du solstice, on renversait un peu de vin ou de l'huile dessus en offrande. Puis avec le temps et la disparition progressive des cheminées, elle est arrivée sur nos tables en forme de pâtisserie vers la moitié du XIXe siècle, d'abord en génoise, et plus souvent aujourd'hui glacée. Pour moi, un athée fait en Noël sous le seul prétexte qu'il aime bien le sapin et les guirlandes, c'est un peu comme un vegan qui irait fêter la Saint-Hubert parce qu'il est mélomane et qu'il aime bien le son du corps. S'il aime le son du corps, on peut lui dire que Beethoven, Vivaldi, plus près de nous, Brahms, Schubert et Strauss ont écrit des œuvres pour le corps. Ou bien encore, un insoumis ou un objecteur de conscience allant voir le défilé du 14 juillet sous prétexte que ça lui offre une occasion de voir du monde. Ben, s'il aime voir du monde, on peut là encore lui conseiller d'aller voir l'exposition Matisse au musée de l'Orangerie, il lui reste encore quelques jours, ou bien d'aller écouter Metallica au Stade de France, il en verra du monde. Je vous laisse le temps de la réflexion, car on pourrait multiplier les exemples à l'infini.
C'était une émission préparée, présentée et réalisée par Gilles Beck.
Voilà comment j'avais envie de résumer en une heure l'histoire des fêtes célébrées en France. Suite à quoi, questions et réflexions peuvent se poser. La France est-elle championne du monde des jours fériés? Non. Et loin derrière la Colombie et l'Inde, 18 jours. Vous me direz, oui, mais ces pays-là... Oui, mais loin derrière l'Islande et la Finlande aussi. La France, de plus en plus athée, et laïque, mais ne rechignant pas à célébrer plus d'une quinzaine de fêtes catholiques. Merci le petit Jésus pour Noël, Pâques, l'Ascension, Pentecôte, et j'en oublie. La France, championne du monde de l'individualisme, soi-disant, où de toute façon les Français n'en font qu'à leur tête. Mais quand on décide pour eux du jour où ils doivent offrir un bouquet à maman, à mémé, à papa ou à bobonne, ils s'exécutent. Le jour où leurs gosses ont le droit de taper sur des grosses caisses dans la rue pour la fête de la musique ou de se déguiser en citrouille, ça les amuse. Comme le disait Pangloss, le maître de Candide dans le conte de Voltaire, « Tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes. » Et c'est certainement un regard très personnel que peu sans doute partagent, certainement dû à ma profonde confusion entre le rêve d'une société et ce qu'elle en fait dans la réalité, entre mes illusions d'un monde espéré et désiré et ce qu'il est factuellement. En attendant de vous retrouver le mois prochain, je vous remercie de rester fidèle à ce programme que vous pouvez toujours réécouter à souhait sur le site orinoco-podcast.com et découvrir aussi les titres de ces musiques au piano qui nous accompagnèrent tout au long de ce programme. À dans un mois.